Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire, actualité des publications d'histoire, actualité de la recherche, actualité des relations de la société à son passé. Pour commencer cette émission, nous aurons le plaisir de recevoir le spécialiste de sciences politiques, chercheur à Yale, James E. Scott, spécialiste de l'Asie du Sud-Est et des sociétés résistantes à l'État, qui sera cet après-midi à Urigny, près de Mâcon, pour la très belle manifestation qu'est la manufacture d'idées. James Scott vient de publier un livre grand public qui tente de reprendre à partir des travaux archéologiques l'histoire de la domestication, de la naissance des villes et des États, son titre Homo domesticus, et c'est à la découverte. Puis Amélie Meffre, dans sa chronique Un saut dans la loi, abordera l'acte de septembre 1976 qui instaure l'élection des députés européens au suffrage direct. Cécile Vast, spécialiste d'histoire de la résistance, nous dira pourquoi l'histoire de la résistance, 75 ans après l'instauration de la journée de la résistance, doit trouver aujourd'hui de nouveaux chemins, en particulier dans les classes. Enfin, pour terminer, nos deux rubriques partenaires, C'était à la une avec Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, nous racontera un exploit en 1901 dans les pas de Phileas Fogg, et Jean-Marc Bastière, rédacteur en chef de notre partenaire Histoire et Civilisation, nous rappelle qu'il y a 500 ans, Hernán Cortés se lançait à la conquête du Mexique.
Yo le parlo ni amor, nana.
Yo le parlo ni amor, nana.
Yo le hincho, yo le hincho.
Yo le hincho, yo le hincho.
Allá mamado villana.
Allá tu gorra del mando.
Cata junjilla lenjana.
Cata junjilla lenjana.
Ucat cocon samachella.
Ucat cocon samachella.
Bonjour James Scott, merci d'être avec nous.
Très heureux d'être là.
Vous êtes l'auteur récent de Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers États aux éditions de La Découverte, mais on vous connaît pour vos livres précédents, en particulier La Zomia, qui sont des livres qui, en tant qu'anthropologue, vous ont placé dans une situation particulière. Vous faites partie, c'est ce que dit votre préfacier, Jean-Paul Demoule, d'une école d'anthropologues qui se qualifie ou est qualifié d'anarchiste. On va expliquer pourquoi avec vous à propos de ce livre Homo Domesticus. Ce livre est un livre très ambitieux. Vous y parlez justement de la différence entre les nomades et les sédentaires, et vous revenez très très loin de votre zone de travail habituelle, puisque vous remontez au néolithique essentiellement, mais également aux périodes antérieures. Pourquoi avoir voulu, en tant qu'anthropologue, faire ce qu'on appelle parfois de la big history, c'est-à-dire une histoire qui embrasse la totalité du monde, mais également la totalité des époques pendant lesquelles l'homme a vécu sur cette terre, James Scott?
Depuis des années, une vingtaine d'années, je vais enseigner un séminaire avec deux collègues sur la comparaison des états agraires. Et j'avais l'habitude de donner les premières conférences sur la domestication des plantes et des animaux et les premiers états. Et j'avais l'impression que ces conférences étaient un peu datées, que je dois les améliorer si j'avais l'occasion à lire ce que les archéologues et les historiens des États anciens ont produit pendant les dernières vingtaines d'années.
Qu'est-ce qu'on disait dans la première documentation qui vous servait à faire ces cours? On y disait quoi, et qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau en lisant justement les travaux les plus récents, James Scott?
J'ai donné une série de conférences invitées au bout d'avoir lu l'archéologie et l'histoire ancienne, et seulement pour constater que les conférences que j'avais l'habitude de donner étaient plus ou moins stupides et plus ou moins incorrectes. Donc, une chose qui est plus importante pour moi au commencement de mes recherches, c'est que nous avons l'indication de plantes tout à fait domestiquées 4000 ans avant qu'on trouve les villages dont la subsistance est principalement par la cultivation. Bon, pourquoi l'invention, la domestication des plantes avait précédé la vie agraire par 4000 ans? Notre histoire reçue dans l'école primaire même était que le moment où les êtres humains ont domestiqué les plantes, ils peuvent se sédentariser, ils peuvent rester sur place, bâtir un village, et puis la civilisation suit.
Et donc, ce qui vous a surpris et ce qui vous a interrogé en tant que universitaire à Yale, c'était justement cette idée que on avait toujours dit que la domestication et que la vie en village ou en ville était datée de la même époque. Et en fait, on s'apercevait depuis les dernières recherches archéologiques qu'elle était bien plus ancienne que la vie en village. Donc, il y avait eu 4000 ans de vie où des nomades avaient domestiqué des plantes et n'étaient pas installés ensemble dans des villages. C'est cela, James Scott ?
C'est parfait. Et ils avaient la connaissance de cultivation et ils ne l'utilisent que une très petit morceau de leur terrain pour avoir de cultiver les plantes. Ils préféraient d'exploiter une nature qui était une nature d'abondance. À cette époque-là, 6000 ans avant Jésus-Christ, le niveau de l'eau
des océans,
le Red Sea,
oui, de la mer Rouge.
Mer Rouge était plus ou moins 100 mètres plus haut qu'il était maintenant. Ce n'était pas une zone aride, mais c'était plutôt une marée avec
de l'eau partout.
Les tortues, les oiseaux, il y avait les trajets des gazelles qui courent à travers ce terrain une fois par an. Et s'ils sont interceptés,
oui,
on peut récolter de la viande pour toute l'année.
Et donc, vous vous posez la question de comprendre pourquoi on a toujours raconté que la domestication des plantes et des animaux correspondait à l'installation en cité et puis ensuite en état dans cette région du Moyen-Orient, de la Mésopotamie. Et vous vous dites, toutes les recherches que je lis dans des revues scientifiques sérieuses, des archéologues, nous disent le contraire. Donc c'est à partir de cela que vous pensez qu'il faut faire un livre qui s'appelle en français Homo Domesticus, dans lequel vous allez réfléchir à une nouvelle manière d'imaginer la relation entre domestication, cité, état, esclavage, puisque vous évoquez la question de l'esclavage, et tout un tas de questions qui sont à l'origine de la pensée européenne et puis ensuite mondialisée sur ce qu'a été la croissance du néolithique en particulier, en disant, eh bien non, on peut penser autrement cette question-là, James Scott.
Oui, je pense que l'histoire reçue avant, je dois dire que moi, je ne suis pas anthropologue, je ne suis pas archéologue, je ne suis pas un historien de la vie ancienne, mais j'en profite d'avoir lu la recherche qui a été faite pendant les vingtaines d'années passées pour nous renseigner ce qu'on a découvert dans cette période de recherche. Donc, pourquoi les êtres humains ont résisté la cultivation pendant 4000 ans. Et c'est pour ça, c'est ça qui est très important. Et une raison principale était que cette espèce de subsistance coûte beaucoup plus de travail
plutôt qu'un marais abondante qui était
riche en poissons,
riche en ressources de subsistance, et il travaille 2 heures, 3 heures par jour seulement pour avoir une subsistance qui était une subsistance d'abondance.
Et c'est d'ailleurs le cœur de votre réflexion, puisque vous avez travaillé sur la question des États, de régions en particulier de l'Asie du Sud-Est, de Malaisie, et sur la capacité à résister, puisque vous êtes un historien des résistances des populations, en particulier aux États modernes. Vous vous êtes dit, il faut que j'aille voir plus loin dans le temps, non pas dans l'espace, mais dans le temps, pour voir pourquoi on avait résisté à cette création qui est la naissance des premières cités et la naissance des premiers États, James Scott.
Oui, pour moi, la raison pour laquelle je voyage dans le passé pour savoir comment dans nous sommes comme êtres humains, Homo sapiens, nous sommes là depuis 200 000 ans, et ce n'est que les dernières 10 000 ans que on fait de l'agriculture. Et je me demande pourquoi, tout d'un coup, les êtres humains se trouvent bondés, entassés, en village, pour la première fois, avec les animaux domestiqués, avec le blé et l'orge dans cette région, et parce que le problème, c'est que cet assemblage des animaux, des êtres humains et de céréales ont produit une tempête épidémiologique qui n'a jamais existé avant. Toutes nos maladies infectieuses apparaissent à cette époque-là.
Oui, vous dites « cela coûte ». Vous avez dit « cela coûte à ces nomades de travailler plus ». C'est plus difficile de travailler plus que de prélever, que d'envisager d'organiser des pièges pour prendre les animaux, et en particulier les gazelles, lorsqu'elles passent sur son territoire. Mais ça coûte plus aussi en vie humaine. C'est ce que vous essayez de démontrer dans Homo Domesticus, c'est que vous dites, à partir du moment où on domestique les animaux, où on les parque auprès des humains, les virus s'installent, et ils commencent à migrer des espèces entre elles. Ensuite, il y a des commensaux, comme on dit en français, ce sont des espèces animales qui viennent s'installer tout autour, comme le rat, la souris, les moineaux et tout un tas d'animaux qui transportent là aussi d'autres maladies. Et à partir de ce moment-là, vous dites, c'est comme ça que vous l'envisagez à partir de la lecture des travaux des archéologues, à partir de ce moment-là, eh bien, il y a des populations qui sont décimées, qui sont annihilés, qui sont exterminés par les maladies. Et vous dites, ça coûte très cher que de s'installer en village ou en ville.
Oui, et les nomades, les chasseurs-cueilleurs, ils se bougent souvent. Donc, ils laissent leurs ordures
à un endroit,
et ils vont à un autre endroit. C'est pour la santé, c'est un avantage important. On peut constater que même les villes en Europe, jusqu'à le 18e siècle, ne se reproduisent que avec l'entrée des gens de la campagne à la ville, parce que la ville elle-même était, au point de vue épidémiologique, très dangereuse avant Baron Haussmann et
le 19e siècle.
Oui, c'est ça.
Alors, vous appelez ça le complexe de la domus, donc avec le nom latin de la maison. Donc, ce complexe de la domus, vous dites, eh bien, c'est une vraie question que de réfléchir à la question de savoir si ce sont les hommes qui domestiquent les animaux ou ce sont les animaux qui finissent par domestiquer les hommes, puisque au bout du compte, pour s'occuper des animaux, pour s'occuper des plantes, ils inventent le travail régulier et très prenant, très fatigant pour les hommes. Et vous réfléchissez en anthropologue à ce modèle que vous appelez un bulldozer agro-économique et démographique, c'est ce modèle de la Domus. Donc, on a un caterpillar qui avance et qui détruit tout sur son passage, James Scott. Oui.
De toute façon, le Domus, c'était quelque chose de nouveau au point de vue écologique. Ça n'existait avant. On peut comprendre le Domus comme un pèlerinage des êtres insectes, des êtres animaux, des weeds. C'est-à-dire que le Domus, c'est une collection des animaux de céréales et leurs insectes, leurs parasites, les souris, les rats, les moineaux, les pigeons, tout ce qui vient manger au Domus. Et c'est une entité écologique qui n'existait pas avant et qui a transformé la campagne, transformé le territoire comme un bulldozer, comme vous disiez.
Alors, vous avez pour cela travaillé avec des archéologues en les lisant, vous vous êtes fait relire, parce que vous êtes chercheur à Yale, donc vous n'écrivez pas n'importe quoi, et quand on vous lit, on pense par exemple au livre de Yuval Harari qui Sapiens, qui est un véritable succès dans le monde entier, où il explique effectivement la prédation des hommes sur les espèces végétales, la prédation des hommes sur les espèces animales, et où d'une certaine façon il rêve à une terre où on n'aurait pas, on ne serait pas devenu sédentaire, mais où l'époque où nous étions nomades était, disons, selon lui, bien meilleure, bien plus intéressante, parce que, et vous le développez dans Homo Domesticus, James Scott, vous dites, on avait plus de qualité en tant qu'humain, on devait être plus vigilant, on devait être plus agile, on devait chercher plus de choses dans la nature, et donc on connaissait mieux la nature et l'environnement que nous l'avons connu après la domestication. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Harari dans son livre ?
Je suis plus ou moins d'accord. On peut dire même que le changement de morphologie des animaux domestiqués avec les animaux sauvages est plus ou moins ce qui est arrivé pour les êtres humains. Les chasseurs-cueilleurs deviennent les hommes domestiqués qui, presque tout leur attention, leur vie est organisée autour du progrès génétique d'un seul céréale comme le blé ou l'orge et quelques autres produits aussi. Mais pour moi, la prédation, comprendre le processus de domestication, c'est de comprendre le contrôle sur la reproduction. C'est-à-dire les plantes domestiquées sont les plantes dont nous avons organisé leur reproduction. C'est la même chose pour les animaux domestiqués. Et on peut dire, dans les premiers états, le contrôle de la reproduction des femmes était à peu près du modèle semblable.
Alors, parce que vous passez à une étape supérieure de votre réflexion dans Homo Domesticus, et vous dites effectivement, pourquoi les états, et pourquoi les états ont-ils été obligés de pratiquer de manière coercitive leur domination sur les citoyens ou les êtres humains, que ça soit en Mésopotamie, le long du fleuve Jaune, en Grèce ancienne, en Anatolie, dans tous ces endroits où ces états se sont développés, depuis Uruk, puisque vous commencez par Uruk, jusqu'à la Grèce ancienne. Vous vous posez la question de comprendre quels ont été les modèles qui ont permis aux états et aux pouvoirs de s'imposer sur des populations en plaidant pour la sûreté, la sécurité de ces populations, etc., etc., James Scott.
Le problème, comme vous pouvez constater, j'ai exercé de caution quand il s'agit de questions qui ne sont pas résolues jusque maintenant parmi les archéologues. Donc, l'apparence de l'État, pour la première fois, c'est une question qui n'est pas résolue jusqu'à maintenant. On pense, il y a un parti des archéologues qui pense que le climat a changé, est devenu plus aride, et les populations doivent se concentrer vers les sources de l'eau. Il y a une autre partie qui pense qu'ils ont détruit toutes les grandes batailles qui étaient le protéine facile d'accéder. Donc, ils étaient obligés de faire les plus petites interventions, les petits animaux et les céréales. Donc, l'apparence de l'État, c'est une question.
L'apparition de l'État.
L'apparition. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un État très fragile. Au point de vue épidémiologique, c'était aussi les impôts, le travail forcé, le corvée, si vous voulez.
Puis l'esclavage.
Oui, l'esclavage. Non, c'est-à-dire qu'ils avaient la population, de temps en temps, s'enfuit. Une autre partie de la population est morte de maladies. Donc, il y avait toujours... Parmi les États anciens, le problème de garder une population d'exploiter. Donc, il faut remplacer ceux qui ont fui et ceux qui sont morts de famine ou bien de maladie par les guerres de capture. Donc, le bout de guerre dans le monde ancien était presque souvent, presque tout le temps, c'est de
capturer
une population et
de la ramener chez soi.
Au centre pour être exploité. Donc, c'était un exercice de régénération de la population, ouais. C'est ça. De remplacer la population.
Le remplacement de la population. Vous insistez beaucoup sur cette question de la construction de l'État, sur la liaison de cet État avec des ressources comme le blé, comme l'orge, comme la céréale. Et vous posez une question à laquelle vous ne trouvez pas de réponse, mais qui est une question amusante. Pourquoi n'y a-t-il pas un État ou des États du pois chiche et de la lentille, James Scott?
Oui, il faut constater tout d'abord que tous les anciens États, n'importe où, comme en Chine, au fleuve jaune. C'est millet.
Le millet.
Millet. Au Yangtze fleuve, c'était le riz. En Mésopotamie, c'était le blé et l'orge. Et la Nouvelle Monde, c'était le maïs. Donc, chaque civilisation avait un céréal qui pousse
en hauteur,
qui est mûr à un certain froid ensemble, qui doit être surveillé, qui doit être confisqué et utilisé comme a tax commodity.
Un support pour l'impôt.
Pour un impôt. Bon, on peut stocker tous ces grains quand ils sont séchés. Ils durent longtemps. Ils ont une valeur assez grande pour cart. You know, a wagon.
Pour être transporté.
Transporté
dans des chariots, etc.
Oui, c'est ça. Ouais. Donc, s'il s'agit des patates, par exemple, ils ne durent pas longtemps. Peut-être c'est difficile de les sécher. Ils ont très peu de valeur vis-à-vis le blé dans un wagon.
Mais dans un chariot pour pouvoir être transporté.
C'est, à mon avis, je me demande pourquoi tous les États a été basé sur un grain comme impôt. Et c'est comme une commodité d'impôt. C'est plus convenant pour tous les États plutôt que les patates, les bananes, le cassava.
Qui sont des nourritures qui sont souterraines et qui surtout périssent, disparaissent très vite parce qu'elles ne se conservent pas.
C'est ça.
Vous savez d'ailleurs qu'en français, un des mots de l'argot français pour parler de l'argent, c'est le blé. Est-ce qu'on en a du blé ou est-ce qu'on n'en a pas? James Scott, vous dites dans votre livre Homo Domesticus que l'histoire est la discipline la plus subversive.
Parce que ce que nous prend comme habitude, dont nous sommes habitués, comme de vivre sous un état, l'histoire nous conseiller, nous informer que cet état n'existait pas toujours, qui a été inventé à un certain temps. Donc, l'histoire nous donne une, on ouvre
le temps,
plus que tout ce que nous savons bouge. Les tectonic plates, les fleuves qui semblent être là, mais qui a bougé mille fois pendant les dernières mille ans. Après le glacial maximum, il y a une 18 000 ans, plus ou moins. Si on peut avoir un... en anglais, ça s'appelle time-lapse photography.
Oui, une photographie qui est prise tous les ans, par exemple.
Ou tous les 100 ans.
Bon,
on pense que les arbres ne bougent pas, mais les chênes et les beaches, la glace, ils bougent. Ils marchent au nord et ils traînent avec eux les animaux, le sol qu'ils créaient. Donc, tous bougent.
Et donc, ça veut dire que l'histoire nous permet de relativiser ce que l'on croit être fixe, n'est pas fixe, mais que c'est toujours en mouvement.
C'est ça.
Et ça vous passionne justement, cette idée-là. Parce que c'est aussi une façon pour vous, vous dites je suis curieux, je suis un amateur, vous n'êtes pas un professionnel en tant qu'archéologue du passé, mais vous dites ma curiosité et mon amateurisme me permettent de poser des questions au passé que peut-être d'autres ne se posent pas, en l'occurrence James Scott.
Et si je peux communiquer ce qu'on vient de connaître avec succès, c'est à cause de ma naïveté. Parce que j'ai commencé avec l'idée reçue, comme tout le monde, d'anciennes civilisations, dont je communique ma surprise.
Et ça permet d'ailleurs de vous lire dans Homo Domesticus, une histoire profonde des premiers états. Cet adjectif profond, deep, vous l'envisagez comment, ce profond, ce deep? C'est parce que c'est très loin dans le temps?
C'est très loin dans le temps. Ce n'était pas plus intelligent.
Merci beaucoup, James Scott. C'est publié à La Découverte et on aura le plaisir de vous entendre ce vendredi, donc lors de la manufacture d'idées. Vous allez dialoguer comme beaucoup d'autres intellectuels qui se rendent tout près de Mâcon, et on ne peut que conseiller à nos auditeurs de se rendre aussi à la manufacture d'idées, puisque vous y serez. Ils pourront vous entendre parler de ce travail, mais également de l'ensemble de votre travail sur la question de l'anarchie, de l'État, des nomades et des sociétés sans État. Merci beaucoup, James Scott.
Merci, je suis ravi d'y participer et aussi pour le manufacture des idées.
Merci.
Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
Bonjour Amélie Meffre.
Bonjour.
Et comme chaque mois, vous nous rappelez un texte ancien en fonction de l'actualité. Et depuis janvier, vous avez consacré votre saut dans la loi, c'est le titre de cette chronique, à la construction européenne. Alors que dimanche, une majorité d'Européens votait, vous nous rappelez aujourd'hui l'acte communautaire du 20 septembre 1976 qui entérine la décision d'élire au suffrage universel direct les députés européens.
Oui, et cette décision n'aboutira qu'après de longs débats. Le traité de Rome, signé en 1957, qui met en place une assemblée parlementaire européenne, prévoit, dans son article 138, que les députés seront élus au suffrage universel direct. Mais le Parlement, n'ayant qu'un rôle consultatif, ça va prendre plus de 20 ans à se concrétiser. En attendant, les députés sont désignés par chaque parlement national des États membres. Il faudra en fait dépasser le dilemme qui se pose à l'époque. Doit-on renforcer les pouvoirs du Parlement européen naissant avant de mettre en place des élections, ou doit-on les organiser au plus vite pour les renforcer? Les députés bataillent pour cette dernière option et ils adoptent dès le mois de mai 1960 une convention en ce sens. Et en juin 1963, le Parlement vote une résolution qui plaide pour un renforcement de ses pouvoirs via l'élection directe de ses membres.
Mais la France va s'y opposer, visiblement, parce que le général de Gaulle donc a une position différente.
Et oui, parce que selon lui, le Parlement européen ne disposant pas de pouvoir budgétaire et législatif, il ne doit pas être élu au suffrage universel. Pourquoi mobiliser l'électorat pour une institution peu connue et dénuée de véritables pouvoirs politiques? Et puis, De Gaulle, il plaide pour une Europe des nations. Il se méfie de toute supranationalité et les parlements nationaux doivent rester souverains. Quoi qu'il en soit, en mars 1971, la Commission européenne finit par mettre sur pied un groupe de travail présidé par Georges Vedel, doyen de la faculté de droit. Il doit plancher sur un renforcement des compétences du Parlement. Un an plus tard, le groupe publie un rapport qui préconise une extension des pouvoirs du Parlement via la mise en place sur les questions importantes d'une codécision entre l'Assemblée de Strasbourg et le Conseil des ministres. Le rapport Vedel se prononce également pour l'élection au suffrage universel direct du Parlement, sans s'en préciser les contours.
Alors l'idée fait donc son chemin visiblement à ce moment-là.
Oui, et en décembre 1974, lors du sommet de Paris, le président Valéry Giscard d'Estaing accepte l'élection directe du Parlement, à condition que soit créé un Conseil européen des chefs d'État se réunissant au moins 3 fois par an. Ça sera fait. On met sur pied un nouveau projet de convention et on réunit les chefs d'État en juillet 1976 pour finaliser un accord. Et donc le 20 septembre 1976, les représentants des 9 États membres adoptent enfin à Bruxelles l'acte portant sur l'élection des députés européens au suffrage universel direct. En 16 articles, le texte précise les modalités des élections. On double le nombre de députés, qui seront 410, répartis selon la taille de chaque État membre, élus pour 5 ans et pouvant cumuler mandat européen et mandat national.
Que se passe-t-il une fois que cet acte est signé ?
Eh bien, il doit être ratifié par tous les membres de la communauté et il l'est à une très forte majorité, même si en France, les gaullistes et les communistes s'y opposent toujours. À cet égard, le 10 février 1977, Jean-Paul Sartre fustige dans Le Monde la construction d'une Europe du capital et appelle les militants socialistes à ne pas ratifier le projet de loi. Mais bon, il le saura. Et les premières élections européennes se dérouleront en juin 1979 avec une affiche de campagne signée Follon, nous livrant un citoyen volant vers de nouveaux cieux sous le slogan « L'Europe, c'est l'espoir ».
Et que se passe-t-il en France ?
Eh bien, au soir des résultats, la liste UDF menée par Simone Veil arrive en tête avec 27,6% des voix, suivie par celle du PS et du MRG de François Mitterrand avec 23,5%, tandis que celle du PCF de Georges Marchais recueille 20,5% et celle du RPR de Jacques Chirac 16,3% des suffrages. Notons qu'on déplore alors la faible participation qui avoisine pourtant les 60% quand on se réjouit d'une remontée à plus de 50% 50 ans plus tard. Enfin, en attendant, au Parlement européen présidé par Simone Veil, la majorité des 410 députés se répartit entre le groupe socialiste, 112 élus, et le Parti populaire européen, 108 élus. Alors une fois acquise la légitimité démocratique, reste au Parlement à étendre ses pouvoirs législatifs, ce qui ne sera pas une mince affaire.
Exactement. Merci Amélie. On peut réécouter bien évidemment ce saut dans la loi consacré à cet acte de 1976 sur le site de France Culture. Et puis on peut lire d'Olivier Costa et de Nathalie Braque le fonctionnement de l'Union européenne paru aux éditions de l'Université libre de Bruxelles en 2014 et consulter le très riche site, vous l'avez déjà dit mais c'est vrai qu'il est très riche, du Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe qui rassemble beaucoup de documents, vidéos, photos et également textes sur cette histoire de l'Europe telle qu'elle se vit au quotidien depuis maintenant plus de 60 ans. Merci encore. Bonjour Cécile Vaste.
Bonjour Emmanuel Laurentin.
Vous êtes enseignante, spécialiste d'histoire de la résistance et nous voulions vous avoir pour évoquer un thème que les lycéens vont peut-être avoir au baccalauréat puisque nous avons fait toute notre semaine sur la préparation du baccalauréat, à savoir la mémoire de la résistance. C'était cette semaine, lundi, le 27 mai, la journée nationale de la résistance et une journée particulière puisque c'était la 75e journée nationale de la résistance et pourtant au lendemain des élections européennes, cette journée est passée un peu inaperçue et nous voulions vous demander votre diagnostic sur cette question. Est-ce qu'en tant qu'historienne de la résistance, vous sentez une sorte d'éloignement progressif de cette question de résistance dans notre société ?
Cette journée de la résistance, le 27 mai, en fait, c'est le 27 mai 1943. Donc, c'était plutôt les 76 ans de la première réunion du CNR est passé effectivement très discrètement. Mais si on regarde un peu plus loin, ce qui est frappant, c'est que ce sont aussi les 75 ans du programme du CNR, le 15 mars, qui sont passés vraiment très discrètement aussi. Et en remontant encore plus loin dans le temps, je pense aussi aux 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été en grande partie rédigée par René Cassin, et qui sont, tout ça sont des textes et des moments fondateurs en grande partie issus de la résistance, qui affirment des valeurs humanistes, approfondissent des valeurs républicaines, et qui sont effectivement, qui ont subi une étrange discrétion, et qui effectivement interrogent. Voilà, ça c'est la première chose. Donc il n'y a pas que la première réunion du CNR. Enfin, moi je trouve que c'est beaucoup plus profond que ça en fait, quand on regarde un petit peu les moments fondateurs.
Et ça vous inquiète justement en tant qu'historienne que de voir justement cette mémoire peut-être s'éloigner? On sait très bien qu'il y a des rejeux de mémoire et que par exemple la mémoire de la Première Guerre mondiale est revenue de façon très, très forte dans les années 90-2000. Donc rien n'interdit à ce que cette mémoire de la résistance ne revienne. Mais ça vous inquiète tout de même?
Alors ce qui m'inquiète, et c'est ce que on va essayer d'être un peu nuancé. Ce qui m'inquiète d'une part, c'est que ce qui peut inquiéter, ou en tout cas interroger, enfin je ne vais pas être inquiète pour ce qui me concerne, mais on a une forte présence de la résistance, mais à travers des représentations très figées, très stéréotypées, ou à travers une présence polémique et politisée ou instrumentalisée. Je pense au débat qui a eu lieu la semaine dernière sur les 75 000, entre guillemets, 75 000 fusillés. Donc on a une présence quand même qui est réelle, qui est plutôt polémique et en même temps une profonde méconnaissance du phénomène. Et je trouve qu'il y a ce paradoxe-là qui est quand même assez important. Et par ailleurs, en même temps, quand on regarde bien, il faut peut-être aussi jouer sur les échelles, c'est-à-dire que à l'échelle locale, les mémoires sont beaucoup plus vivantes finalement, les mémoires de la résistance locale, mais beaucoup plus discrètes également. Et ce sont en fait des mémoires qui sont parfois liées à des zones de maquis ou à des lieux de représailles, souvent une mémoire douloureuse parfois, et qui renvoie plutôt à une autre réalité de la résistance que celle que l'on voit un peu partout, extrêmement figée, qui renvoie à sa diversité, avec son ancrage territorial, avec les liens avec l'environnement social. Donc on a quelque chose qui est assez paradoxal, quelque chose de très vivant à l'échelle locale, mais discret et beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe en fait dans son expression. Et par ailleurs, donc ce que je vous disais, une instrumentalisation, une présence, mais qui est souvent une présence polémique.
Sous forme de scandale.
J'aime beaucoup les historiens, ça c'est sûr.
Sous forme de scandale et qui ne rend pas compte du juste travail des historiens sur cette période. On peut dire aussi, vous l'évoquez dans un article où vous avez été interrogé par Béatrice Bougnol de la Croix sur ce thème, que la question aussi de la transmission aux plus jeunes de cette histoire de la résistance est peut-être rendue plus difficile par la disparition des résistants eux-mêmes. On avait beaucoup compté sur la présence physique des résistants dans les classes, et on se souvient des époux Aubrac et de bien d'autres qui ont parcouru les classes de France pour pouvoir raconter leur expérience de la résistance. On a l'impression effectivement qu'il faut passer à un autre mode de transmission aujourd'hui, puisque la plupart d'entre eux sont disparus ou sont en train de disparaître malheureusement.
Oui, il faut passer à un autre mode de transmission. Bon, on a les documents, on a un certain nombre de moyens et de biais par lesquels on peut transmettre l'histoire de la résistance. Il y a aussi les lieux de mémoire, les musées, etc. Donc la question de la transmission se pose beaucoup. Vous savez peut-être qu'il y a énormément de musées de la résistance qui sont en train de se refaire et qui se posent cette question-là de la transmission. Mais c'est vrai que on peut aussi l'aborder sous d'autres angles, et notamment à travers, je vous le disais tout à l'heure, des exemples locaux qui permettent d'aborder la résistance et de tenir compte aussi de la recherche historique, de s'intéresser à la question de la diversité des engagements, de s'intéresser à l'idée que la résistance est un processus qui évolue dans le temps et selon les lieux et qui n'est pas le même selon la période, de s'intéresser à l'environnement social également, à la dimension aussi morale. Enfin, on a aussi des possibilités à travers des moyens de médiation autres que les personnalités de parler de la résistance et de sortir un peu de cette vision très militaire et institutionnelle.
Et vous êtes intervenu la semaine dernière dans la belle manifestation qui était l'Histoire à venir à Toulouse pour aussi évoquer la mémoire d'un grand historien de cette question de la résistance et de l'opinion publique pendant la Seconde Guerre mondiale, Pierre Laborie, dont on vient de publier des écrits sous le titre de « Penser l'événement ».
Oui, tout à fait. Alors c'était effectivement, il y avait la dimension hommage, mais c'est aussi pour présenter son travail d'historien. qui était important. Hein, Penser l'événement, c'est vraiment un recueil de textes et d'articles de son travail d'historien. Et alors c'est intéressant parce que Pierre Laborie avait plusieurs projets ces dernières années, et notamment un projet sur penser la résistance. Et on a voulu, dans ce recueil publié chez Gallimard, essayer de dépasser un peu cette idée de résistance et de s'intéresser à un certain nombre d'événements et de voir comment Pierre Laborie abordait la question de l'événement en histoire, sa construction, évidemment, mais aussi sa perception, ses représentations. Et l'idée de ce recueil, c'est d'aller au-delà, finalement, de la résistance et de réfléchir aussi à d'autres événements de la période, l'épuration, les années 40, l'effondrement, la mémoire de 14-18, etc. Enfin voilà, il y avait aussi une volonté d'aller au-delà de la seule résistance, et puis d'insister aussi sur le travail de réflexion sur la question des comportements collectifs sous l'occupation. Comme vous le connaissez, dans le prolongement de ces travaux de l'opinion française sous Vichy.
Et comment, pour conclure, Cécile Vaste, se positionner en tant qu'historien ou historienne de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance face à des médias qui sont souvent à la recherche du scandale, de la provocation, du clash, comme on dit habituellement, c'est-à-dire tenir son rang de spécialiste dans un contexte où on veut surtout de l'opposition et des gros traits pour pouvoir décrire cette Seconde Guerre mondiale?
Mais là, c'est la grande difficulté, et c'est même la grande question que pose aussi Pierre Laborie dans cet ouvrage-là, c'est-à-dire quelle est la place et le statut de l'historien, son rôle, en fait, confronté à des discours autres, essayer d'une part de comprendre et de décrypter ces discours différents, et souvent, enfin, que lui appelait vulgates, hein, mais qui réduisent la réalité à des oppositions binaires et qui sont très éloignées de l'histoire, et justement, comment l'historien peut réaffirmer sa place et son rôle de personne qui apporte des connaissances. C'est une des questions majeures, en fait, que l'on retrouve dans Penser l'événement. Moi, j'ai pas la prétention d'y répondre, parce que c'est une question qui nous pose problème encore, c'est-à-dire on est parfois, alors je vais pas dire qu'on est, on est parfois un peu démunis face à cette sorte de rouleau compresseur des médias qui font qu'on a une grande difficulté à faire passer la nuance, la complexité dans la connaissance aussi bien de la résistance que de la question des comportements collectifs. Mais c'est vrai que c'est une question que Pierre Laborie aborde beaucoup. Cette question donc du lien entre discours, construction d'un discours et place de l'historien.
Merci beaucoup Cécile Vaste pour être venue dans cette Fabrique de l'Histoire évoquer justement ce moment commémoratif autour de la Journée nationale de la Résistance. Merci.
Merci, au revoir.
Au revoir.
J'accuse les bureaux de la guerre d'avoir mené dans la presse une campagne abominable.
Le 26 avril prochain,
en portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881. Et c'est volontairement que je m'expose.
C'était à la une.
Le matin, 2 août 1901. Le tour du monde en 63 jours. Nos lecteurs ne trouveront plus désormais au bas de cette page le baromètre qui leur permettait de suivre pas à pas Gaston Stigler dans sa course autour du monde. La barre noire partie de Paris touche de nouveau à Paris. Le globe-trotteur est revenu après avoir parcouru la distance de 34 448 km en 63 jours et 16 heures. Il détient sur tous ses concurrents le record du tour du monde. À Boulogne. Que de monde au débarcadère de Boulogne. Si vous aviez vu cette masse compacte d'habitants, de baigneurs et de matelots, de Parisiens en vacances, de promeneurs et de simples curieux. Si vous aviez entendu les propos qui s'échangeaient et les souhaits sympathiques que l'on formulait pour notre vaillant collaborateur. Si vous aviez pu enfin assister à l'explosion soudaine et formidable de viva qui salua Stigler à son entrée dans le port, vous auriez senti combien le grand public s'intéresse à nos travaux, combien il nous est reconnaissant des efforts tentés au matin pour le satisfaire, et combien aussi il sait gré à un journal et à un journaliste d'avoir de l'initiative et de savoir créer du nouveau. Voilà, voilà Stiegler. Il est seul près de la dunette, pas fatigué le moins du monde, frais et dispo, au contraire, la mine reposée. Bonjour Stiegler. Étonné, il lève la tête, aperçoit des amis et fait un signe de la main. À ce simple geste, la foule s'électrise. Elle a reconnu l'homme, l'homme qu'elle admire et qu'elle veut fêter. Et alors, formidable, les vivas retentissent, frénétiques et ininterrompues. Vive Stiegler! Vive Stiegler! Vive le matin! C'est une avalanche, un grondement, une ovation sans fin. Les femmes agitent des mouchoirs, les hommes remuent leurs chapeaux, on acclame, on applaudit, on crie à plein poumon, tandis que Stiegler, modeste, son petit chapeau mou à la main, serré dans son complet gris, salue de la meilleure grâce du monde, ayant l'air d'implorer plus de calme. L'heure presse maintenant. Notre train est formé, il faut monter dans le wagon réservé. En route pour Paris. Paul Lefranc. En gare d'Amiens. Stiegler, en apprenant la maladie de Jules Verne, avait eu la délicate pensée d'éviter au vieillard un déplacement pénible. Cependant, Jules Verne, malgré son extrême faiblesse, avait tenu à se faire conduire à la gare. Quand le train pénètre sous le hall, c'est un immense cri de « Vive Stiegler! Vive Jules Verne! Vive le matin !» Les mouchoirs, les chapeaux s'agitent, les bras se tendent. Mais, avec une agilité qu'on ne supposerait pas chez un homme qui a dans les jambes toute la fatigue du tour du monde, Stiegler a déjà franchi la foule. Il est dans les bras du vieillard et l'embrasse à plusieurs reprises. Subitement, tout s'est tu devant le spectacle attendri de cette étreinte qui confond le disciple et le précurseur, le visionnaire et l'ouvrier qui achève de réaliser une de ses plus audacieuses conceptions. Le moment est à l'émotion plus qu'aux paroles. On parle à peine. Stiegler lui dit merci d'avoir pensé, d'avoir prévu ce triomphe vertigineux de l'homme sur l'immobilité des éléments, comme il a prévu la conquête de l'air, la navigation sous-marine et tant d'autres choses que le progrès se hâte chaque jour d'accomplir. Jules Verne répond que la pensée est vaine sans l'acte qu'il exécute, et à son tour lui dit merci d'avoir osé. Cependant, le signal retentit. Stiegler embrasse une dernière fois le vieillard, en lui promettant de venir bientôt lui dire dans sa retraite d'Amiens les péripéties et les émotions de son voyage, pendant que la foule, revenue de l'émotion à l'enthousiasme, accompagne de longues acclamations le train qui s'ébranle vers Paris. F.I. Mouton.
Voilà donc pour ce « C'était à la une » tiré du journal Le Matin du 2 août 1901, un texte lu par Elsa Dupuis. Vous pouvez bien entendu le retrouver sur le site Rétro News, notre partenaire, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Et pour terminer cette émission, nous recevons Jean-Marc Bassière. Bonjour Jean-Marc Bassière.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef de notre partenaire Histoire et Civilisation qui, ce mois-ci, titre « Les conquistadors en 1519, Cortés s'empare du Mexique » parce qu'il y a 500 ans avait lieu en effet un événement d'ampleur historique.
Oui, en effet, en 1519 débutait la conquête du Mexique. Si aujourd'hui nous appelons ainsi ce pays, c'est que cette terre était dominée par le puissant empire des Mexicas, Mexica que nous nommons aussi les Aztèques. À l'issue de ce conflit, l'Amérique commence alors à entrer sous domination européenne. Cette entreprise, menée par Hernán Cortés, personnage intelligent et charismatique, mais aussi cruel et controversé, eut donc des conséquences immenses. Mais la question qui se pose encore est celle-ci. Comment Cortés a-t-il pu conquérir avec une poignée d'hommes, quelques centaines au départ, l'imposant empire des Aztèques et ses 20 millions d'habitants? Les conquistadors, basés à Cuba, ont alors pris un risque fou. Le plus inouï est que cette expédition est une initiative du seul Cortés. Il n'est pas l'agent d'une politique d'expansion mondiale, laquelle aurait été décidée par le roi d'Espagne. Aucun projet de conquête n'est ordonné, ni même autorisé.
Alors qu'est-ce qui motive donc ces conquistadors?
L'attrait des richesses, bien sûr. Ces hommes espèrent rentrer chez eux avec des sacs chargés d'or. L'autre motivation est religieuse. Les conquistadors sont convaincus d'obéir à Dieu et de travailler à l'expansion de la chrétienté. C'est aussi parce qu'ils sont persuadés de faire leur salut qu'ils n'hésitent pas à prendre des risques insensés. Leur rapport à la vie n'est pas le même que le nôtre. Et puis, tout simplement, il y a l'esprit d'aventure. Ces soldats découvrent des mondes presque totalement inconnus. Ils sont entraînés dans quelque chose d'exaltant.
Mais qu'est-ce qui a contribué, selon vous et selon les historiens que vous convoquez dans ce numéro d'Histoire et Civilisation, en particulier Serge Grusinski, qu'est-ce qui a contribué à la réussite de Cortés ?
Eh bien, il a fait preuve d'une habileté tactique et stratégique hors du commun. On peut dire qu'il est autant un politique avisé qu'un chef de guerre affirmé. En effet, avec un rapport de force aussi démesurément favorable aux Aztèques, Cortés n'aurait pas pu réussir sans alliés. C'est ainsi que des dizaines de milliers d'indigènes l'épauleront. Les Espagnols, en effet, faisaient face à un empire fractionné en une multitude de villes et de seigneuries. La principale était l'orgueilleuse Tenochtitlan, l'actuel Mexico, la cité des Mexicas. Ceux qu'ils dominaient les détestaient. Cortés exploita donc au mieux cette division. Il a su s'allier avec les cités indigènes qui, elles, voulaient retrouver leur liberté. Comme nous dit justement l'historien Serge Grusinski, ce sont les Indiens qui ont conquis l'Amérique latine.
Mais il y a d'autres causes, j'imagine, à ce succès de Cortés en 1519 et dans les années qui suivent.
Oui, les Espagnols apportèrent avec eux des maladies contre lesquelles les natifs n'étaient pas immunisés. Ce choc microbien entraîna par la suite la mort de millions d'individus. Autre explication, les Indiens ne saisirent pas tout de suite les intentions des Espagnols. Quand ils comprirent, il était trop tard. Par ailleurs, notons que les armes à feu des Européens n'ont pas joué le rôle décisif qu'on leur a prêté. Enfin, on remet aujourd'hui en cause l'idée selon laquelle les indigènes auraient été quelque peu passifs devant les envahisseurs à cause de prophéties leur faisant percevoir les Espagnols comme des êtres divins. Il s'agit d'un récit a posteriori, sans doute pour justifier l'humiliation de la défaite.
Voilà, et donc le dossier de Histoire et Civilisation, c'est les conquistadors. En 1519, Cortés s'empare du Mexique, mais il y a aussi d'autres pages consacrées dans ce numéro de juin, donc du Monde Histoire et Civilisation, comme Mycène, a-t-on trouvé le tombeau d'Agamemnon, ou encore Pharaon, une justice au nom des dieux, évidemment, comme beaucoup d'autres magazines ces temps-ci, un dossier, des pages consacrées à Notre-Dame et à Viollet-le-Duc. Merci Jean-Marc Bastière, et au mois prochain.
Au mois prochain.
Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Théo Gomard était avec nous à la technique aujourd'hui et Thomas Duterre à la réalisation. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'une histoire des métiers. Nous parlerons des métiers qui disparaissent, des métiers nouveaux, mais aussi avec un documentaire sur les typographes. Et puis, l'histoire continue sur France Culture pendant le week-end avec Concordance des temps de Jean-Noël Jeannet. Il recevra donc demain samedi Frédéric Chauveau pour parler d'une histoire des veuves.